Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
10h03, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant et merci si vous êtes là depuis une heure, c'est-à-dire depuis le début de l'émission, même avec la nouvelle heure. À suivre notre invité, le comédien Nils Schneider. On va parler du film Apache qui sort mercredi, film de Romain Quirot. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Sébastien Bordenave, bonjour.
Bonjour Philippe.
Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Jean-Luc, tous les jours, vous nous ramenez des informations à retenir et à ressortir lors du dîner quand on n'a plus rien à raconter à son conjoint car l'usure du temps a abîmé le couple. Et dites-nous tout, quel sera le thème de votre Europe 1 midi aujourd'hui?
Philippe, il faut vraiment que vous classiez un peu mieux vos fiches. Hein, parce que le monsieur d'Europe 1 midi vient de sortir du studio. Vous me confondez avec Romain Desarbres. Moi, oui. Niveau journalisme, je suis plutôt Romain Desarbustes. Hein, moi, je fais de l'investigation, mais low cost. Mais si ça peut vous faire plaisir, j'ai en effet des infos importantes. Car ce week-end, je suis tombé sur la news. Arrêtez tout. Ça risque de changer votre vie à jamais à tous. Hein. C'était sur France Info dans le billet Science.
Le bol que vous choisissez, dans lequel vous mettez vos chips, a une influence sur leur goût.
C'est dans le bol bleu que les volontaires qui ont participé à cette étude menée à l'université de Portsmouth ont préféré leurs chips.
Oui, il y a des chercheurs qui sont payés pour manger des chips dans des bols de couleur. Je veux ce job. Je crois que j'ai les compétences. J'ai un master en Pringles. Alors évidemment, vous vous demandez pourquoi les chips sont meilleurs dans un bol bleu que dans un bol rouge. Ça change quoi au niveau du ressenti?
Elles étaient plus salées, elles avaient plus de goût. En tout cas, ne choisissez surtout pas le bol blanc. C'est la pire des trois couleurs testées par les chercheurs.
Mais tellement, moi, quelqu'un qui me présente des chips dans un bol blanc, je lui balance à la gueule. Franchement, en même temps, c'est intéressant. Ça veut dire que le cerveau est un organe facile à tromper. Si ça se trouve, la réforme des retraites, Elisabeth Borne serait habillée en schtroumpfette, ça serait passé comme une lettre à la poste. Je vous dis ça parce que hier, au JT de TF1, je suis tombé sur un autre reportage essentiel à Landerneau.
Ouais, je connais.
Ils sont tous là. Le grand schtroumpf, les schtroumpfettes et même le schtroumpf danseur. Avec une seule chose en tête, schtroumpfer le record du monde du plus grand rassemblement de schtroumpfs.
Oui, ce week-end, on a beaucoup parlé des Black Blocs, mais il y avait aussi des Blue Blocs. Hein, des gens déguisés en schtroumpf qui se réunissaient dans un sur un parking en Bretagne. Mais ça valait le coup, car le record du monde appartenait à une ville allemande depuis 2 ans. Et là, ils l'ont toujours, hein, car il n'y avait que 2532 schtroumpfs à Landerneau. Il en manquait 230 pour entrer dans le Guinness Book.
Oh non.
Ouais. Dommage. Hein.
Oui, mais comme en France, on ne perd vraiment jamais.
Pour se consoler, les participants peuvent se dire qu'ils ont probablement créé le plus grand rassemblement de schtroumpfs sous la pluie.
Ça passe. Là, on est vraiment sur du record de niche. Hein, parce que rassemblement de schtroumpfs sous la pluie, à mon avis, il y a des catégories comme ça sur des sites porno. Comme j'étais sur une bonne lancée d'infos de premier rang, je me suis mis sur BFM. Et là, c'était moins drôle. C'était moins drôle de nous parler des pénuries de produits dans les magasins.
9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à ces ruptures de produits. Alors pour 67%, c'est la moutarde. Pour 54%, c'est de l'huile.
Alors, je vais être sérieux 2 secondes, je suis désolé, mais ça me fait flipper. Hein, parce que je passe beaucoup de temps dans les supermarchés et les gens, je ne sais pas si vous avez vu, ils deviennent irrationnels. L'autre fois, je les voyais, ils achetaient tout ce qu'ils pouvaient en huile de tournesol. C'était pathétique. Du coup, j'ai acheté les dernières bouteilles qui restaient. Ah non, mais chez moi, j'ai un stock d'huile de tournesol et de PQ. Je ne sais pas comment je vais finir, je sais juste que je serai gras avec le cul propre. C'est bon, vous avez l'image?
Mais tellement.
Ce week-end, j'ai aussi découvert, comme vous tous, hein, cette information qui m'a mis en état de choc. Bruce Toussaint a tout arrêté pour l'annoncer.
Je vous interromps toutes les deux parce que nous apprenons à l'instant que la visite en France du roi Charles III est reportée.
En même temps, c'était prévisible. Hein. C'est affiché en pleine réforme des retraites avec un homme qui a trouvé son premier emploi à 73 ans. Ça l'a fout mal. Mais c'est dommage cette annulation parce qu'en ce moment, les gens qui ont envie de voir Emmanuel Macron, ça court pas les rues. Hein. Pour une fois qu'il y en avait un de motivé, ça lui apprendra à faire le kiki à le président. On dit à tout le monde qu'on va manger à Versailles avec le roi d'Angleterre, puis finalement on se retrouve dans un hippopotamus avec Olivier Dussopt et Elisabeth Borne. Même si je fais gaffe avec les vannes sur Olivier Dussopt, je commence à flipper. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a appris ce week-end?
Évidemment. Hein.
Sur RMC, ils ont fait un portrait assez improbable. Je serai député, parce que débuté, ça veut rien dire. Je serai député NUPES, je commencerai à avoir peur.
Depuis plusieurs semaines en tout cas, il cherche à modeler son image. Olivier Dussopt le dure. Ses proches racontent dans la presse qu'il se lève tous les matins à 5h15 pour faire des pompes et des abdos avant d'enchaîner sur un régime hyper protéiné à base de steak tartare.
Est-ce que c'est pas l'information qui nous manquait? Notre ministre du Travail, c'est Rocky Balboa. Il a compris que le débat ne servait à rien, il va faire installer un octogone à l'Assemblée. Mais bon, si ça lui permet de se faire respecter, parce que d'après les informations du journaliste, il va y avoir besoin.
selon mes informations, un député insoumis est en train de faire fabriquer 100 boîtes à meux Olivier Dussopt. Et bien là, ce sera personnalisé avec la phrase « Personne n'a craqué une... »
Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué !
Nos députés sont en train de grandir, Philippe. Il y a encore deux semaines, ils s'insultaient, ils se faisaient des bras d'honneur et là, ils sont passés aux travaux manuels. Le niveau monte.
Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. Une fois de plus, c'était savoureux. On vous retrouve demain et d'abord, on vous retrouve de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. C'est l'émission historiquement vôtre.
Et vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h. On vous parle d'un film qui sort mercredi au cinéma et ça s'appelle Apache, Philippe Vandel.
Bonjour Neil Schneider.
Bonjour Philippe Vandel.
Comédien, on vous a découvert dans Les Amours Imaginaires de Xavier Dolan, c'était en 2010. Vous avez été césarisé pour Diamant Noir, c'était en 2016. Vous avez vu également dans Sibylle de Justine Triet, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Et voici donc à l'affiche d'Apache, film de Romain Quirot, Artus, Bruno Lochet, Dominique Pinon, Alice Izaz complètent la distribution. Ça sort mercredi, film très intéressant. D'abord en ce qu'il a une portée historique avant toute chose, qui étaient les Apaches.
Oui. Alors moi, je connaissais très peu de choses sur les Apaches. C'est un peu les premiers gangs parisiens qui terrorisaient la population parce qu'ils avaient la haine des bourgeois. Ils s'attaquaient principalement aux bourgeois. C'était des fils d'ouvriers qui ne voulaient pas terminer à l'usine comme leurs parents. Et ils exerçaient vraiment un pouvoir de fascination parce qu'ils avaient une identité très, très, très singulière. Quoi. Ils piquaient des codes comme ça aux bourgeois avec leurs chaussures brillantes, ils étaient leurs foulards rouges, ils étaient à la fois très stylisés et en même temps, ils faisaient très, très peur. Quoi.
Je cite Romain Quirot, le réalisateur, puisque vous en parlez. Il dit en 1902, puisque c'est à cette époque qu'on appelle la Belle Époque, ça s'est terminé avec l'arrivée de la guerre de 14, qu'ils ont été envoyés sur le front, comme beaucoup. Évidemment, ouais. Et malheureusement, en 1902, dit Romain Quirot, la presse surnomme Apache les bandes de malfrats qui sévissent dans la capitale et qui ont en commun leur détestation de la police, des bourgeois et du travail jugé asservissant. Fin de citation. On a l'impression, quand j'ai lu ça, d'entendre une interview de jeunes dans les manifs contre la réforme de la retraite. À quel point c'est actuel?
Oui, il y a des échos qui sont assez évidents, quoi. C'est-à-dire que on voit les premières dérives de l'industrialisation. C'est-à-dire que la jeunesse parisienne était poussée finalement dans les banlieues. Il y avait le baron Haussmann avait transformé la ville et finalement les Parisiens, la jeunesse parisienne avait plus de quoi se payer de logement à Paris. Et oui, l'écart de classe sociale se faisait sentir. De plus en plus fort et il y a des échos et très très forts.
C'était pas seulement des petites bandes comme la bande à Bono, parce que les Apaches en tout, ils étaient 30 à 80 000 dans Paris. Ouais. Ils vivaient de quoi? Et après, je vous demandais de quoi vivait votre bande.
Alors, ils vivaient
de petits boulots,
de vol surtout, quoi, de l'arsin et de. Oui, ils volaient, quoi. C'était vraiment des bandits. Hein.
Et alors, ce qui reste de cette époque, il y a des mots d'argot, le taf, la thune, un daron qui est revenu à la mode et les condés, pour dire la police. L'histoire de votre bande Apache, de quoi s'agit-il? Si on doit la résumer.
Alors, j'ai un esprit de synthèse vraiment très médiocre, mais c'est l'histoire finalement de...
Moi aussi, c'est pour ça que je vous pose la question à vous. C'est sûr, et en plus avec la nouvelle heure, adieu l'esprit de synthèse.
Ouais. Alors, c'est l'histoire de Billy, c'est une fille des rues.
C'est Alice Izaz.
C'est Alice Izaz, voilà. Et son frère elle veut partir à New York, elle rêve d'Amérique, et son frère se fait tuer par un chef de gang, un chef Apache, voilà, que je joue, et elle va se venger finalement, elle veut venger son frère et s'infiltrer dans cette bande.
Voilà. On écoute la bande-annonce.
Paris à peu et à sang, les Apaches vont régner la terreur.
Le gang n'obéissait à aucune loi. Il semait la terreur en toute impunité. Tout ce beau monde travaillait pour Jésus, le chef des loups de la butte.
Chef Montvert, à vous. Parce que vous ne mettez pas à genoux.
Alléluia.
Je suis un gars bien.
Et pourtant, ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps.
Un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville.
Pourquoi ils veulent se débarrasser de nous? Ah bah parce qu'on fout un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est quoi ton nom?
Billy. Je veux devenir une Apache. Moi, j'avais un plan. Ils pensaient que m'enfermer suffirait à l'anéantir. Mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable. et elle va devenir leur pire cauchemar.
Une histoire de vengeance, Billy veut se venger. Se venger comment ? Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. On en parle avec Neil Schneider. Apache, ça sort mercredi. Il revient dans quelques instants. Vous êtes sur Europe 1 dans Culture Média. A tout de suite.
Europe 1.
Le film Apache sort mercredi avec à l'affiche, entre autres, Neil Schneider. Il est votre invité jusqu'à 11h, Philippe Vandel.
Alors, on l'a dit, c'est l'histoire d'une vengeance, celle de la petite Billy. Vous êtes Jésus, vous êtes l'auteur de ce crime qu'elle voudra venger. Vous êtes surtout la figure tutélaire de cette bande d'Apache. Qui est Jésus ? Comment vous avez abordé ce rôle ?
Alors, Jésus, voilà, c'est le chef d'un gang d'Apache, parce qu'il
n'y
a pas les Apaches, il y avait vraiment plusieurs gangs, et c'est un fils d'ouvrier qui le tue il a un côté quand même un peu cinglé, quoi. Il le tue dans une partie de roulette russe, mm-hmm. comme ça, donc il n'a pas peur de la mort. Il s'appelle Jésus, pas parce que c'est le fils de Dieu, mais parce qu'il a la réputation d'être increvable, quoi. Mmh. Et il a pris, on raconte qu'il a pris 17 coups de couteau, comme ça, il s'en est sorti. Et voilà, c'est un personnage qui a une sorte de violence en lui et en même temps une envie de vivre très fort.
Si mes enfants avaient 6 ans et 7 ans, ils ne les ont plus, les 6 ans et 7 ans, ils diraient c'est un gentil ou c'est un méchant ?
Je crois que c'est des Anglais, ils disent « a cool bastard ». C'est
un bâtard cool.
C'est un bâtard gentil.
Bah oui, parce qu'on s'y attache. Il est méchant, mais on s'y attache quand même pendant le film.
On s'y attache parce que justement, il a une rage de vivre aussi. Il y a une fureur de vivre. Et comme il savait qu'ils n'allaient pas vivre très vieux, il profite finalement de la vie peut-être plus que les autres. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film et dans ce rôle ?
C'est des films qu'on fait très peu en France. C'est tout un imaginaire qu'on laisse beaucoup aux Américains, je trouve, aux Anglo-Saxons, aux Coréens, mais qu'on fait très peu en France. On a peur, j'ai l'impression, en France, du cinéma de genre. Mmh. Il y en a de plus en plus aujourd'hui avec Ducournau, il y en a Juste Philippot. Je pense que le cinéma de genre, on se le réapproprie, alors que en France, c'est pas qu'on a inventé le film de genre, mais il y en avait beaucoup à l'origine du cinéma, quand on pense à Méliès, quand on pense à Murnau.
Murnau, c'est pas en France.
Comment ?
Murnau, c'est allemand.
Non, c'est allemand, mais je veux dire même en Europe. Mm. En Europe, et finalement, c'est les Américains finalement qui ont récupéré ces codes-là. Et bref, ça me plaisait, quoi, de faire un cinéma qui soit à la fois généreux, qui soit fun.
Parce que c'est à la fois très réaliste, il y a des séquences très réalistes, en même temps c'est une fable. C'est chapitré,
oui, voilà.
C'est chapitré comme une histoire, comme une saga.
Ouais, on a essayé de rendre ça réaliste dans le sens que à l'écriture comme ça pouvait être très stéréotypé. Et le danger, c'était ce qu'il fallait faire, le défi, c'était de rendre ça quand même le plus incarné possible, quoi.
Alors, c'est un film très dans l'air du temps qu'a signé Romain Quirot, très politiquement correct. Par exemple, le tueur en grand cœur, comme vous dites, c'est cool bastard. En revanche, les flics sont tous des ripoux. Le curé est alcoolique, il ne croit plus en Dieu. Tout est à front renversé.
Oui, il s'amuse avec les codes. Et puis et le personnage de Billy, c'est aussi un personnage assez féministe, dans le sens que à l'époque, les femmes étaient principalement des prostituées. Ouais. Hein, c'était un monde principalement d'hommes, et le personnage de Billy tient tête à Jésus. Ouais.
Et je ne sais même pas si le mot féminisme existait. Alors, il a aussi joué Romain Quirot, le réalisateur, avec les anachronismes. Par exemple, dans la bande-son, on peut entendre, on est en 1900, hein, on peut entendre ceci. Donc ça, c'est Iggy Pop à Wanna Be Your Dog. Ou alors, on peut aussi entendre cela.
Je ne sais pas quand il faut pas.
Vous l'avez, Anissa, ou pas?
Richard Anthony, non ?
Philippe Laville, je ne sais pas. Ouais. Et même votre tenue est anachronique. C'est un vieux manteau Dior. Ouais. Pourquoi, bien sûr, non ? Vous auriez pu choisir, la costumière ou le costumier aurait pu choisir un manteau d'époque. Il a choisi un manteau Dior qui n'avait pas été fondé à l'époque.
Oui, bah, Romain, il s'est amusé avec ça parce que plutôt que... Il voulait surtout éviter en fait, la reconstitution parfaite, historique et du film d'époque, un peu poussiéreux, comme ça, en sépia. Et ce qu'il voulait faire surtout, c'était retranscrire l'esprit Apache. Et l'esprit Apache, c'est vraiment grande liberté, quoi. Ouais. Grande liberté avec des choses qui ne vont pas forcément ensemble, d'assez bigarré et un peu punk.
Quoi. Ouais, et un peu punk, ouais. Punk 77, donc, ou 76, donc pas tout à fait Apache. Là encore, anachronisme. Donc,
exactement.
Et les Colts, c'était comme Buffalo Bill, parce que c'est aussi western. Il y a un côté western à Paris.
Oui, mais il s'est amusé aussi avec ça, parce que en fait, Buffalo Bill était venu pendant l'expo de 1900 à Paris.
J'ai appris
et
ça.
Et c'est pour ça, en fait, qu'on les appelait les Apaches, parce qu'il y avait une sorte de fascination pour la violence des Amérindiens. Mm-hmm. Et finalement, la sauvagerie de ce gang-là rappelait ce qu'on racontait sur ces Indiens quoi, d'Amérique.
Ça s'appelle Apache, ça sort mercredi, film de Romain Quiroz avec Neil Schneider. C'est notre invité dans Culture Média. L'émission continue.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec votre invité Philippe, vous recevez le comédien Neil Schneider à l'affiche du film Apache qui sort mercredi.
Neil Schneider, vous êtes fan de séries? On vous a vu dans des séries, on vous a vu dans Totem, on avait reçu José Garcia notamment. Est-ce qu'à la base vous êtes fan de séries?
Ah oui, j'en regarde énormément, j'adore.
Vous regardez quoi en ce moment?
En ce moment je regarde Fauda. J'ai regardé là je suis à la troisième saison, j'ai passé là tout le week-end, j'ai fait que ça quoi.
Le gars qui nous raconte les week-ends. Vous avez dit quelque chose que je trouve absolument très intéressant sur la différence entre jouer dans une série par rapport à jouer dans un film, Neil Schneider.
Bah, ce qui est excitant dans une série, c'est que tu connais pas la fin, c'est-à-dire
et même
tu
sais quand même on pas, est comédien
mais même quand t'es comédien. C'est-à-dire que bah, sur Totem, j'avais le début, je connaissais les quatre premiers épisodes, et après ça, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver, et on ne sait pas, ça, c'est vraiment l'ADN de la série, tu ne sais même pas s'il va avoir une deuxième saison, une troisième, tu ne sais pas quand ça va finir. Donc finalement, c'est beaucoup plus proche de la vie qu'un film, quoi.
J'avais jamais vu les choses sous cet angle, et vous avez absolument raison. On parle de série avec vous, Héloïse Gouard?
Oui, absolument.
De quoi parle-t-on?
Eh bien, on parle d'une série qui n'est pas une comédie. Est-ce que vous pleurez, vous, devant les films et les séries, Neil Schneider?
Ça m'arrive, oui.
Bah en tout cas, la série Love Me, elle est parfaite. Hein, si vous voulez un bon nettoyage des yeux très naturel.
C'est une expression.
Non, je l'ai inventé, pourquoi pas. En tout cas, j'ai beaucoup pleuré, moi, devant. C'est pour ça que je l'ai dit. Ouais. Alors, comme l'indique déjà un peu le titre de la série, Love Me, Aime-moi, c'est une série romantique qui nous parle de solitude sur trois générations.
C'est une série australienne.
Australienne, absolument. Alors déjà, il y a Clara, c'est une médecin anesthésiste. À 38 ans, elle est célibataire et sans enfant, mais heureusement, son entourage est toujours là pour la réconforter.
Entre nous, t'es loin d'être parfaite, alors pourquoi est-ce que tu veux que les autres le
je
soient?
Je sais que je le suis pas. Je veux pas qu'ils soient parfaits.
Tu es trop vieille pour croupir dans tes principes. Si tu veux des enfants, sois moins intransigeante et trouve simplement un gentil compagnon.
Ok, merci. Simplement gentil, je m'y mets dès demain.
Voilà, donc entourage très très sympa. Il y a ensuite Glenn, c'est le père de Clara qui vient de perdre sa femme après 40 ans de vie commune.
J'avais l'intention de lui faire la surprise pour notre anniversaire de mariage. Un séjour pour les seigneurs romantiques.
Tu vas y aller quand même?
Je vais annuler, mais j'espère qu'ils voudront bien me rembourser.
Combien ça t'a coûté?
Dans les 15 000 dollars.
15 000 dollars? T'es sérieux là? Ça explique le cercueil tout pourri.
Voilà, on rigole pas beaucoup, enfin quand même un petit peu, parfois il y a un peu d'humour noir. Et puis enfin, le troisième personnage, c'est Aaron, le frère de Clara. Lui, c'est encore un jeune adulte, il est très amoureux de sa copine. Il a même tatoué son nom, son prénom sur son torse. Et ça, c'est toujours une super idée, hein, surtout quand on s'apprête à vivre son premier chagrin d'amour.
Ok, je viens avec toi.
Comment ça, tu viens?
Je fais tout ce que tu veux, je suis fou amoureux. Qu'est-ce que t'as un problème? Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai couché avec quelqu'un d'autre hier soir.
Il y a du tatouage aussi dans Apache. Donc en fait, je reviens à vous, Héloïse, on ne fait que pleurer devant cette série, c'est ça?
Alors non, heureusement, on sourit tout de même beaucoup devant Love Me. Il nous arrive même parfois de rire, déjà parce que les épisodes nous montrent comment les personnages parviennent à sortir de cette solitude, chacun à leur manière. Et puis aussi parce qu'il vaut parfois mieux rester seul que mal accompagné. C'est ce que nous rappelle ce date Tinder de Clara.
J'ai pas beaucoup de temps. Alors?
Alors?
Où est-ce qu'on va? T'as prévu d'aller où?
Il est 8h30 du matin.
C'est toi qui as dit qu'à partir de 8h ça le faisait?
Pour prendre un petit déj.
Tu te moques de moi? Tes messages étaient très clairs. Oh merde. Oh putain, t'es pas la bonne.
C'est pas grave, faut que j'aille bosser.
Ça fait 10,50. Il manque les 50 cents.
Désolé.
Oh, ça arrive.
C'est classe, hein. Alors, pour résumer, Love Me, c'est pas la série que je vous conseille si vous venez de vous faire plaquer par votre meilleur ami, mais pour votre meilleur ami plutôt. Mais si vous voulez une dramédie romantique, le mot existe, hein, dramédie, c'est parfait, c'est pas du tout bébête. Ce qui est chouette dans cette série, c'est qu'elle est à la hauteur de nos vies à tous, c'est-à-dire que la fiction colle à la réalité et à l'intimité d'une famille presque banale, confrontée à des drames et à des joies qu'on vit tous un jour ou l'autre. Du coup, on est bouleversé par leurs failles. C'est un peu, vous savez, comme la loi de la proximité en journalisme. Plus c'est proche de nous, plus ça nous touche.
Le kilomètre sentimental.
C'est ça. Et bien là, ça marche très bien. C'est une série douce. Alors, elle prend son temps. Il ne faut pas être trop pressé. Mais comme il n'y a que 6 épisodes, on ne s'ennuie pas. Et la puissance émotionnelle de chacun des acteurs est bluffante. On l'entend mieux en version originale qu'en version doublée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, ça m'a fait penser à la série Normal People.
Ah, génial.
Qui a été adaptée du livre de Sally Rooney, qui est extraordinaire.
Ah, elle est trop bien.
Où est-ce qu'on peut voir cette série Love Me?
Alors, sur la toute nouvelle plateforme Paramount Plus. Encore une plateforme en plus, mais qui commence à valoir le coup.
Voilà, et je m'adresse à tous les gens qui sont en train de se faire tatouer le nom de leur premier petit ami. Je sais pas si c'est la meilleure idée.
Non.
Moi, j'ai un ami qui s'est fait tatouer Megan Fox sur le.
Il regrette?
Mais non, mais il est sûr de jamais se faire larguer par Megan Fox.
Oui, s'il la connaît pas.
Oui. Ah oui, c'est plus facile. Non.
Oui, mais c'est parce qu'elle avait. Enfin, bref. Non.
Continuez, il nous écoute. Ah, ouais. Après, vous serez bien dans la mouise. Voilà. Vous expliquer. On reste avec Neil Schneider. On va parler BD.
Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec votre invité Neil Schneider à l'affiche du film Apache qui sort mercredi.
Ça ferait une belle BD d'ailleurs, Apache. Sébastien Bordenave, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous parlez avec nous de bande dessinée. Aujourd'hui, vous nous proposez une BD sur la vie d'une diva. D'ailleurs, c'est le titre. Alors, il y a un petit souci. Parce qu'Anissa m'a dit qu'il faut dire Oum Kalthoum et pas Oum Kalthoum.
Non, pas du tout. Alors, il me fait mentir.
Il faut dire Oum Kalthoum et pas Oum Kalthoum.
C'est pas faux. Mais nous, on prononce Oum Kalthoum. Moi, depuis mon enfance, je dis Oum Kalthoum.
Oum Kalthoum, donc Naissance d'une diva, c'est une biographie dessinée consacrée à la plus grande chanteuse du monde arabe.
Au dessin, Shadia Louès-Lati. Au scénario, Nadia Atroubi-Safsaf. La BD Oum Kalthoum, Naissance d'une diva, commence par sa naissance en Égypte et se termine en 1975 sur ses funérailles retransmises en direct à la télévision. Le cercueil est porté par la foule, des millions de personnes dans les rues du Caire. Il paraît même, Nils, que Philippe, il paraît même qu'on avait prévu d'autres cercueils vides pendant la cérémonie.
Pourquoi faire ?
Pour tromper la foule et pour mieux les disperser. Parce que tellement la ferveur était
grande. Pour diminuer le risque d'émeute.
Exactement.
Parce que chacun voulait être près du cercueil.
Voilà. Il y en a qui ont été près du cercueil vide. Voilà. Les surnoms d'Oum Kalthoum en disent long sur la légende qu'elle fut et qu'elle est toujours. On l'appelait la quatrième pyramide, l'astre de l'Orient, la cantatrice du peuple ou encore simplement L7, la dame. La BD raconte aussi deux dates mythiques. Hein. 13 novembre et 15 novembre 1967, Oum se produit à l'Olympia. 5 mois avant, c'était la fameuse guerre des 6 jours. Tout le monde pensait qu'elle allait annuler. Eh ben non, en fait, elle va demander à être payée cher, très cher, très très cher, et elle va reverser tout son cachet à l'armée égyptienne. Comme pour tous ses concerts, la star annonce qu'elle va juste interpréter 3 chansons. Pour toute la soirée, elle va faire juste 3 chansons. Cocatrix comprend pas.
Cocatrix, c'est le patron de l'Olympia.
Cocatrix. Exactement. Il blémit, il comprend pas, puis en fait, il assiste au spectacle et il raconte au micro d'Europe 1.
La première chanson a duré une heure. Après, il y a eu un entracte d'une demi-heure. Puis il y a eu une seconde chanson qui a duré une heure. Et puis à nouveau un entracte d'une demi-heure. Puis une troisième chanson qui a duré une heure. Et puis à nouveau un entracte d'une demi-heure. Finalement, tout cela avait fait 4h30 de spectacle. Elle n'avait jamais chanté hors du Caire. Quand ils ont su qu'elle chantait à Paris, ils ont essayé de venir. Alors, il y a des charters entiers qui sont arrivés, qui ne trouvaient plus de place, évidemment.
Les premiers charters, c'était en fait pour le concert d'Oum Kalthoum, premier charter en France. Oum Kalthoum en live, c'est en fait un mélange hypnotisant de précision, de rigueur, d'improvisation, parce que la star peut de façon lancinante chanter longtemps, très longtemps, le même couplet, en rechantant le même mot, mais en fait elle change juste imperceptiblement la note. Du coup, le public s'en rend compte, il entre alors en transe qu'on appelle le tarab. Le tarab, c'est comme
quand vous avez un chagrin d'amour, votre cerveau est paralysé, il tourne autour d'une même phrase toute la nuit, la même souffrance, et ces morceaux suivent la souffrance, comme ça, comme dans le blues. ou le flamenco, qui sont des musiques de la souffrance.
Armand Altaï, dans le DVD Umm Kalthoum, l'astre de l'Orient, la BD, elle, décrit très bien les contradictions de cette femme, à la fois spirituelle, parce qu'elle a tout appris de son père, imam, qui enseignait le Coran, mais aussi sensuelle, parce qu'elle chante l'amour et ses émotions dans ce monde arabe très pudique. Dans la BD, on découvre comment Umm Kalthoum, durant toute sa carrière, elle a refusé d'être sexualisée, d'être un objet sexualisé. C'est une femme qui s'est mariée en inscrivant dans son contrat une clause l'autorisant à divorcer. C'est une révolution, c'est une première et un grand exemple pour les Égyptiennes. La BD Umm Kalthoum, Naissance d'une diva, propose un graphisme accessible à tous. Une BD à la fois douce et solennelle. Elle rend parfaitement hommage à l'idole. On apprend beaucoup de choses sur Umm et sur cette période de l'histoire. Et surtout, quand on la lit, cette BD, ben on a envie d'écouter Umm Kalthoum. Et c'est une très bonne idée parce que moi j'ai Spotify, mais j'ai pas d'abonnement. Et en fait, toutes les deux chansons, ben j'ai une pub. Ben là, les chansons, elles font 53 minutes.
Non,
ben
c'est, ben voilà, c'est pas... Je me suis fait. Attendez, c'est pas une blague.
Non, c'est pas une
parce
blague.
Que vous faites
c'est
souvent des vannes. Il y a vraiment des chansons de 53 minutes.
Mais oui. Oui, oui, oui. Ah non, mais moi j'ai fait des trajets Clermont-Ferrand, Rabat en voiture, donc plusieurs jours de route, avec les albums Umm Kalthoum. L'avantage, c'est que vu que les chansons font entre 1h et 1h15, l'album il dure longtemps dans la voiture.
Incroyable. Voilà. Et elle répète tout le temps la même litanie, ou alors est-ce que c'est un refrain qu'elle chantourne et qu'elle...
Non, c'est souvent la même litanie, mais chantée plusieurs fois, avec plusieurs vitesses, avec plusieurs intonations.
Avec des improvisations
extraordinaires. C'est fascinant, non? On n'est pas d'accord avec ça?
Ah bah c'est totalement fascinant, oui. C'est ce que disait son producteur. Le monsieur, quoi.
Monsieur
Coquatrix. Un concert, trois heures, trois chansons. Ouais, ouais. Quoi.
Il n'y avait plus de métro à la fin. Les gens étaient 2h du mat, les gens sortaient de l'Olympia. Et en fait, il y a encore plus de personnes dehors de l'Olympia que dedans. C'est fou.
On va redire le titre de la BD.
Umm Kalthoum, Naissance d'une diva, publiée chez Jean-Claude Lattès.
Et la série, elle s'appelle, elle est à voir sur Paramount+.
Elle s'appelle Love Me, tout simplement.
Voilà. Vous étiez sur le coup tous les deux, c'était un plaisir. C'est la dernière ligne droite de Culture Média avec Nils Schneider. A tout de suite sur Europe.
Nils Schneider est l'invité de Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1.
Il est à l'affiche du film Apache, film de Romain Quirot avec Artus, Bruno Lochet, Dominique Pinon, Alice Isaz, qu'on recevra dans 2 semaines, ça sort mercredi. Vous êtes aussi dans le prochain Woody Allen, qui est tout en français, c'est un film très mystérieux. Vous y aurez quel rôle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Oh, je ne peux pas dire grand-chose, hein. Je vais répéter ce qu'a déjà dit Woody Allen et son chef opérateur Storaro. C'est un thriller érotique à la Match Point, un petit peu.
Ouais. Voilà. Je savais pas que ça allait être érotique. Je savais juste que c'était un thriller, donc j'ai une information supplémentaire.
Ah oui,
bon. Voilà, je savais pas. C'est tourné, tout est tourné. Vous savez quand ça va sortir?
Ça va. Non, je n'ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Peut-être à Cannes, peut-être à Venise. Je sais pas.
Votre projet d'interpréter un boxeur, vous en êtes où?
Ah, ça vient pas ce projet. Ça ne vient pas.
Je veux dire, ce qui m'a étonné, c'est que vos idoles sont des boxeurs. Je pensais quand on était comédien, son idole c'était un comédien ou une comédienne.
Oh non, mais j'ai dû parler de quoi de Tyson quand
plein de fois vous disiez, quand on vous demandait qui étaient vos idoles, vous disiez ce sont des boxeurs. Moi je
sais pas, j'étais fan à la fois de boxeurs, j'étais très fan quand j'étais enfant aussi de Nouriev qui était danseur. Mmh, hein.
Oui.
Donc la
votre
fois
papa fait de la danse.
Mon père était danseur. Mmh. Oui, c'est vrai. Et puis j'étais fan aussi d'acteur. Hein,
vous avez une histoire particulière. Vous êtes allé avec vos parents au Canada. À la base, vous êtes né en France.
Oui.
Et à l'âge de 8 ans, vous partez au Canada. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait tellement de peine. Je vais vous dire, vous aviez 8 ans et on se moquait de vous parce que vous n'avez pas l'accent de là-bas. Vous parliez avec l'accent français.
Oui, c'est vrai. Bon, on m'appelait le Moutz français.
Vous le redites comme ça?
Le mot de français. J'étais. Je traînais un peu avec. Les enfants, ils sont. Bon, c'était pas très méchant non plus, hein. Mais du coup, j'étais avec tous les étrangers, quoi. Mmh. J'avais. Mon meilleur ami était chinois, l'autre polonais. On était. Ouais.
Et vous avez. À l'époque, je vais y arriver, vous n'aviez pas spécialement envie de devenir comédien?
Enfant, non, pas du tout. Non, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu vers comédien, c'est venu vers 17 ans.
À cause d'un événement tragique? On peut le raconter, ça fait tellement partie, c'est tellement constitutif de votre histoire.
Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais ça y a participé. J'ai 4 frères et c'est vrai que moi je m'intéressais beaucoup plus au skate, au skateboard, je voulais être snowboarder, je crois professionnel, et puis mon grand frère était acteur et il est décédé dans un accident de voiture en allant sur le tournage d'une série dans laquelle il jouait, et c'est suite à son décès où je me suis inscrit
dans la troupe de théâtre de l'école pour essayer de me rapprocher de lui, d'essayer de faire quelque chose qu'il passionnait lui. Et voilà, c'est un peu comme ça que je me suis révélé aussi à moi-même, c'est-à-dire que j'ai trouvé, moi, ma propre voie, quoi, ma propre passion.
Et longtemps, ce fut douloureux. J'imagine ce souvenir. Je vais vous dire à quoi je pense. Ouais. J'ai retrouvé une interview de vous. Vous aviez donné à Libé. C'était il y a 5 ans. Vous disiez jusqu'à récemment. Donc 5 ans. On est en 2017. Jusqu'à récemment, je n'étais pas sûr de réussir à vivre. Quand on programmait un tournage, je pensais que je ne serais peut-être plus là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu noir tout ça, mais
c'est un peu noir, mais c'est derrière vous.
C'est derrière
vous êtes toujours
nous,
habité
pas,
par ces idées-là.
On est toujours. Oh, non. J'ai envie de vivre, je vous rassure. Simplement, et puis c'est des deuils tellement durs. Je sais pas si on apprend à vivre avec. Là, j'ai appris à vivre avec. Ça m'accompagne. C'est toujours là. C'est pas effacé, c'est ineffaçable, mais ça, j'ai appris à vivre avec. Ouais.
Je vais revenir à l'actualité. Vous gardez toujours un vêtement de chaque tournage. C'est une légende ou c'est vrai?
Quasi. Ou c'est un vêtement ou un accessoire, oui, presque tout le temps.
Pour Apache qui sort mercredi, c'est lequel?
Apache, qu'est-ce que j'ai gardé d'Apache?
Le beau manteau Dior?
Certainement pas les tatouages. la veste, non. J'ai gardé une paire de chaussures. Ouais, une paire de chaussures.
Et est-ce que vous avez encore le Bombers du reporter de guerre Paul Marchand?
Bien sûr.
Paul Marchand qui a inspiré le film Sympathie pour le diable, qui montrait ce qui se passait à Sarajevo pendant la guerre. Vous avez le Bombers?
Bien sûr, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé du personnage de Paul Marchand. J'ai son Bombers, j'ai sa veste juste en dessous, j'ai sa paire de lunettes, son bonnet, j'ai tout.
Et le goût du cigare?
Alors j'ai continué à fumer le cigare pendant près d'un an après, mais j'ai finalement arrêté.
D'accord. Et vous avez arrêté la clope ou pas?
Oui, je suis à la clope électronique, là.
D'accord, non, formidable. Ouais. C'était la minute santé de Culture Média. Normalement, je ne pose jamais ce genre de questions. Alors là, justement, les asthmatiques qui nous écoutent, ça va les intéresser. Est-ce que vous jouez toujours la trompette? Je trouve ça absolument formidable. C'était pour un film italien, Futura. Vous étiez mis à la trompette.
Ouais. Ça, c'est les joies du métier, quoi. On apprend plein de choses, quoi. Des choses qui sont parfois utiles, parfois ça sert à rien. Par exemple, pour Sentinelle Sud, j'avais appris à monter, démonter des Kalachnikov. Je pense pas que ça me servira un jour.
On ne le souhaite pas.
Mais la trompette, j'ai continué à, j'ai continué à jouer. Je joue moins là en ce moment. Mais,
d'accord. Parce que non, moi je pense juste aux voisins. Parce que le réveil à 6h du mat à la trompette, c'est moyen.
Ouais, moi j'ai arrêté, mais en revanche, j'ai une belle fille qui joue de la trompette. Et les voisins, je sais pas ce qu'ils en pensent, quoi. Non. Bon. Elle joue très bien.
Ouais. Pour jouer bien, il faut jouer beaucoup. Et votre scénario, vous en êtes où?
Quel scénario?
Le Monde, 4 novembre 2018. En 2010. Neil Snyder s'est lancé dans l'écriture d'un scénario au héros tordu, un érotomane qui, après avoir découvert ses premiers émois, allait devenir très dangereux. Qu'est devenu ce scénario?
Ah, ce scénario, il est sur la glace, là.
Ça veut dire quoi?
Ouais, il est sur la glace, c'est-à-dire que...
Ça veut dire quoi, il est sur la glace?
Ah, c'est une expression québécoise, je crois. Ouais,
ça veut dire quoi, pardon. Il est sur la glace?
Il est sur la glace, ça veut dire
Il patine?
Non, c'est...
Ça veut dire
qu'il est... voilà.
Il est gelé, il est au frigo.
Il est au frigo, ouais, ça va peut-être revenir un jour, mais là, je n'ai pas forcément envie de réaliser pour le moment.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Neil Snyder. Je rappelle ce film Apache, film de Romain Quirot avec Artus, Bruno Lochet, Denis Lavant et Alice Izaz. Ça sort mercredi, c'était un plaisir de vous recevoir. Dominique Pinon et non pas Denis Lavant, je les confonds souvent, c'est Dominique Pinon.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler d'un documentaire sur le congé paternité qui suit 4 papas et puis la romancière aux plus de 5 millions de romans vendus, c'est Aurélie Valogne. Elle sort son 9e livre, L'Envol. Ça parle de l'amour filial inconditionnel ou pas entre une mère et sa fille. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Elles viennent d'entrer dans ce studio. D'abord, je vous salue. Et deuxièmement, je vous pose la question rituelle, le programme du jour.
Alors, aujourd'hui, un sujet très pratique. On va vous éviter certains désagréments. On va voir comment manger sans s'empoisonner, comment concilier à la fois plaisir de la table et sécurité. Vous savez, on a tous eu des petits soucis un peu gastriques, on va dire, à des
tous,
moments.
Tous,
voilà,
ça, parler
pour vous, que ce soit en voyage ou à la maison, on va voir.
Regardez
Anissa. Des choses très très pratiques. Non, est-ce que vous nettoyez régulièrement votre réfrigérateur?
Le frigo, c'est tous les combien chez vous, Anissa?
C'est
okay, c'est pas
c'est
assez.
Pas
C'est pas suffisant. Et puis quand vous partez en voyage aussi.
Et l'eau du robinet. Ouais.
Voilà, ouais. Comment rester en bonne santé quand on voyage. Ouais. Bref, on va essayer de ne pas s'intoxiquer ce matin.
Merci beaucoup, on vous écoute. Moi, je vous dis salut, à demain. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut, Nicolas.
Merci beaucoup.